continuer de parler de tout ça avec vous, Gilles Charbonnier. Mais comme vous le savez peut-être, à chaque mi-temps de notre émission, nous allons voir du côté des revues ce qui s'y écrit. Et nous sommes aujourd'hui avec Marin de Viry de la Revue des Deux Mondes. Bonjour Marin.
Bonjour Mathieu.
Larbaud fait-il partie des auteurs que vous emportez en voyage quand vous partez en voyage?
Eh bien non, mais je le regrette de plus en plus depuis une demi-heure. Ça fait partie de ces auteurs dont on... qui, on le disait avant l'émission, sont des écrivains pour écrivains. Moi, j'en ai entendu parler.
Mais qu'est-ce
vraiment...
que c'est ? Alors, on va définir aussi ce que oui. c'est un écrivain pour écrivain, parce que finalement, ça devient un peu un gimmick au sujet de Larbaud.
Et
finalement,
on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Votre invité parlait d'horizon d'attente, c'est-à-dire que c'est une sorte d'exemple d'horizon, de travail. Enfin, c'est un horizon qu'on peut atteindre par le travail. Là, c'est un diamant de style qui rappelle aussi, une certaine tradition du style français telle qu'elle est figée. À un moment, mais figé dans son ouverture, si je peux dire, par Vaugelas, appliqué par Saint-Simon, et Valérie Larbaud est une sorte d'expression strictement littéraire de ce style français-là.
Vous êtes d'accord avec ça, Gilles Charbonnier, sur la définition de l'écrivain pour écrivain ?
Oui. C'est vrai.
Qui se transmet, je dirais, qui se transmet avec une sorte de ferveur, de la main à la main. Ouais. C'est-à-dire que ça n'est pas tellement la rumeur publique qui fait la gloire de Larbaud, c'est plutôt les explications de personne à personne et de personne intéressée par la littérature à personne intéressée par la littérature.
C'est pour ça que chose peut-être d'un petit peu snob aussi dans le fait d'aimer cet écrivain parce que précisément il reste assez confidentiel. C'est presque qu'on est presque pour parler trivialement dans les codes du luxe.
Oui. Ne le répétez pas, c'est le meilleur. Oui. Enfin, ne le répétez pas, c'est le meilleur. Quand même, les hussards avaient essayé de lui donner un peu plus de lustre et de publicité, etc. Mais fondamentalement, c'est comme si sa destinée était d'être discret et exemplaire. Voilà, c'est très intéressant.
Une question me vient, Marin, je vous la pose. Est-ce que pour vous, la majorité des écrivains français d'aujourd'hui soutiennent l'idée de l'Europe? Est-ce que le cosmopolitisme, tel que l'envisageait Larbaud, est aujourd'hui partagé?
La culture européenne ouverte, oui, je pense que ça c'est quand même, 90% des écrivains français sont pour une culture européenne ouverte. Ils ont un certain mépris pour le nationalisme, c'est-à-dire pour une sorte d'idée de pureté, l'idée d'une sorte de pureté littéraire française qui s'imposerait aux autres nations, parce que nous aurions des particularités remarquables, est une idée qui a complètement abandonné les esprits, je pense, mais depuis très longtemps maintenant. Donc non, il y a un vaste consensus en réalité autour d'une sorte d'idée de confédération littéraire européenne, quelque chose comme ça.
Alors parlons un peu de la revue des Deux Mondes, mois de février-mars, numéro de février-mars, qui s'intitule, vous allez nous dire si c'est un peu provocateur ou pas, Les pièges des droits de l'homme. On est piégé par les droits de l'homme.
On est piégé par des conséquences d'une politique des droits de l'homme qui peut connaître des dérives. Voilà, c'est ça l'idée de ce numéro qui, je vous rassure, reste très modéré et très balancé, comme toujours les numéros de la Revue des Deux Mondes. Ça s'appelle Les pièges des droits de l'homme. En réalité, c'est l'entretien que Marcel Gauchet a accordé à la Revue sur ce thème-là, avec une idée très simple. Le meilleur de la généralisation des droits de l'homme, c'est la consécration de l'intangibilité des droits de la personne, ça c'est le meilleur. Et puis le pire, c'est peut-être ce qui a commencé à arriver dans le début des années 80, c'est-à-dire au fond, les droits de l'homme deviennent le socle de la justification des revendications des particularités identitaires et particulières, et donc religieuses, ethniques, sexuelles.
Alors ça c'est très intéressant, parce que Valéry Larbaud lui-même se considérait comme un universaliste. Est-ce que précisément sur ce thème, vous voudriez ajouter quelque chose, Gilles Charbonnier ?
Oui, alors, universaliste, ça fait référence justement à cette culture de la SDN. La SDN s'appuyait donc sur l'humanisme, par universalisme. Je crois qu'il faut entendre la tradition de l'humanisme européen. Alors, évidemment, Larbaud s'inscrivait dans cette dimension. Alors, c'est très intéressant parce que Larbaud s'inscrivait dans cette dimension universaliste, bien sûr, mais en même temps, alors là, évidemment, c'est le moment très intéressant, mais quand même la volonté de privilégier la culture française. Et vous parliez de Barnabouf tout à l'heure. Il y a une expression de Barnabouf qui est très intéressante. Barnabouf s'écrit « Je suis un grand cosmopolite patriote ».
Oui. Et alors c'est pareil pour Marcel Gauchet.
Oui. Alors là, je lui laisserai la responsabilité de répondre à cette question précisément. Puisque là, on l'a interviewé essentiellement sur les dérives potentielles, on va dire, de la politique des droits de l'homme. Donc, il y a un grand entretien avec lui, qui évidemment est passionnant, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la perspective historique que Philippe Reynaud nous offre. Hein, c'est la vision des droits de l'homme sous la Troisième République. Et il y a également deux études sur les conséquences juridiques de la politique des droits de l'homme dans la société, dans la démocratie, dans le rôle que prend le juge compte tenu de cette évolution. Ça, c'est Jacques de Saint-Victor et Éric Desmonts qui donc font cette analyse. Michel Onfray s'occupe, si je peux dire, de l'opposition entre Camus et Sartre sur la question des droits de l'homme, avec, disons, en reprenant l'opposition classique entre une vision de la justice concrète, qui était plutôt celle de Camus, et puis une vision de l'histoire abstraite.
C'est-à-dire Camus qui est en couverture, hein,
absolument, Camus. Absolument, avec un appendice qui est toujours aujourd'hui, pas politiquement correct.
Une cigarette. On peut le dire, je crois, encore voilà. À la radio.
Et puis, nous avons aussi la question de l'exportation, si je puis dire, des droits de l'homme, à travers la question de la politique extérieure et de la diplomatie des droits de l'homme, qui est traitée par Renaud Girard et François Zimeray. Et enfin, deux études complémentaires, une sur l'introduction des droits de l'homme dans la démocratie, dans la très jeune démocratie américaine, dans la démocratie américaine naissante, par Jean-Paul Clément. Et enfin, une vision aujourd'hui du point de vue chinois sur les droits de l'homme.
Toujours la rubrique littéraire aussi dans la Revue des Deux Mondes. Je crois que vous avez écrit vous-même sur un incident professionnel qui vous a rendu féministe en 5 minutes.
Oui, alors tout est dans les circonstances de l'espèce, comme disent les juristes. Non, il s'agit.
Vous n'étiez pas féministe avant, c'est surtout ça.
Plus exactement, je ne me préoccupais pas de la question, et je me suis préoccupé de la question à partir du moment où, disons, un incident professionnel m'a fait être placé dans les mêmes conditions qu'une femme qui se serait fait un petit peu embêter par ses supérieurs et qui se serait rendu compte qu'il y a au fond une mauvaise immixtion de la question sexuelle dans l'univers professionnel. Et en me disant que, au fond, si ça se répétait plusieurs fois par jour et plusieurs fois par semaine, etc., etc., la répétition de ça finissait par créer une sorte d'état d'esprit contre lequel il fallait absolument s'élever.
Voilà, la prise de conscience de Marat de Viry est à découvrir dans la Revue des Deux Mondes du mois de février et aussi de mars. Merci Marin, à bientôt.
À bientôt.